Postface, avril 2020. La version papier de ce livre a été écrite entre octobre 2019 et janvier 2020, avant que le Covid-19 n'affecte l'Europe. Alors que mon éditrice avait fixé la date de sortie du livre à avril 2020, cette dernière a finalement été repoussée et je me retrouve confiné chez moi, à enchaîner les scripts de vidéos YouTube pour expliquer à un nombre croissant d'abonnés comment notre système économique réagit à cet événement sans précédent et quelles sont les solutions qui pourraient être mises en place. Face à toute cette complexité et à tout cet entrain des internautes qui souhaitent comprendre et participer à la construction du monde d'après, je crois que le cœur de ce qui se joue n'est pas nécessairement dans la compréhension des détails techniques. Il me semble que la crise du Covid-19 met en perspective les contours, les limites et les paradoxes du logiciel libéral qui guide nos actions, et passe en général totalement inaperçu tellement il nous est familier. Pour comprendre ce qui nous arrive, et peut-être s'en prémunir à l'avenir, il nous faut interroger les objectifs du libéralisme tels que nous le pratiquons. Les limites du libéralisme. Le monde dans lequel nous vivons est évidemment façonné par tout ce que nous sommes capables de produire. Nos usines, nos bureaux, nos restaurants, nos moyens de transport, nos infrastructures, nos logements, nos technologies, tout ce qui est concret et observable autour de nous. Mais ce monde est le résultat de lois, de coutumes, de niveaux de salaire, de prix, de méthodes de création monétaire, qui sont des concepts abstraits. Ce sont ces concepts qui forment le logiciel libéral de notre société capitaliste. Le terme « libéral » est important, car il renvoie à la notion de liberté individuelle. Si l'on regarde les économies occidentales qui réunissent tous les pays dits « développés », le logiciel varie légèrement d'un pays à l'autre, mais le point commun revendiqué demeure la défense d'une grande liberté pour chacun. Or, la crise du Covid-19 vient nous interroger profondément sur cette notion de liberté individuelle, à laquelle nous sommes tous si attachés. Et je ne parle évidemment pas ici du confinement qui nous empêche d'exercer notre liberté de circuler, mais bien de quelque chose de plus profond. Nous constatons que les éboueurs, les caissières, les agriculteurs, les médecins, les infirmières, les chauffeurs de bus, de métro, de train et de camion exercent des activités absolument essentielles. Non seulement nous découvrons qu'un pays développé dont la moitié de la population ne travaille plus peut fonctionner correctement en fournissant l'essentiel à ses habitants, ce qui doit nous interroger sur la définition de ce que nous appelons richesse et sur la véritable valeur des activités que nous exerçons, rappelez-vous de toute la partie consacrée au PIB, mais nous prenons également conscience, en profondeur, du caractère arbitraire de nos règles. Je m'explique. Et si nous décidions, dans le but de revaloriser leur rôle dans la société, de multiplier par deux les revenus de toutes ces personnes qui exercent des activités si essentielles? Comment ferions-nous, par exemple, pour augmenter significativement le salaire des infirmières? La première option consisterait à supprimer la gratuité des hôpitaux. Avec une tarification suffisamment élevée des soins, on pourrait augmenter les infirmières. Oui, mais nous voulons un hôpital accessible à tous, quels que soient les moyens financiers de chacun. Dans ce cas, on pourrait envisager une hausse de tous les salaires les plus bas pour que chacun puisse se payer les soins dont il a besoin. En revanche, cela nécessiterait fort probablement de contrôler les prix des biens et des services vendus sur le territoire national. En effet, si on impose aux entreprises d'augmenter les salaires, celles-ci risquent de réagir en augmentant leurs prix de vente afin de conserver leurs marges. Or, si les prix montent en même temps que les salaires, il n'y a pas de réelle hausse du pouvoir d'achat et nous revenons au point de départ. Mais nous sommes aussi très attachés à la liberté d'entreprendre. Peut-on réellement envisager un logiciel qui retire aux entrepreneurs, aux indépendants, aux petits patrons et aux grands actionnaires la liberté de fixer les prix des prestations que leurs entreprises délivrent? Et enfin, même si les salaires augmentaient pour permettre à chacun de se payer des soins, que ferions-nous de ceux qui n'ont pas d'emploi? Devrions-nous leur refuser l'accès aux hôpitaux? L'hôpital public est peut-être plus souhaitable que sa version privatisée, mais comment alors envisager la hausse des revenus des infirmières qui y travaillent? Eh bien, la réponse est simple, il faudrait augmenter les impôts. Or, malheureusement, on vote peu pour le politicien qui inscrit hausse des impôts dans son programme. Redécouvrir le sens de l'impôt. Voyez-vous où je veux en venir? Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, vous aboutirez toujours à la même conclusion. Le réel paradoxe de notre logiciel libéral tient à son attachement aux libertés individuelles et à son refus de la contrainte. Le libéralisme, ce sont de multiples personnes qui exercent chacune de leur côté de fortes libertés individuelles. Ces libertés se regroupent autour de trois variables économiques fondamentales. La liberté de fixer et de négocier les prix, de choisir les quantités et de décider les revenus, salaires, loyers, intérêts, dividendes, marges. Vous êtes libre de consommer ce que vous souhaitez, au prix qui vous convient, j'achète ou je n'achète pas, et dans la quantité qui vous semble adéquate. Les entreprises sont libres de produire autant qu'elles le souhaitent et au prix qu'elles estiment pertinent. Vous êtes libre de demander des augmentations de salaire et votre employeur de les accepter ou de les refuser. Cette maximisation de la liberté de tous les acteurs de la société a pour conséquence la multiplication des possibles, ainsi que l'augmentation des inégalités. Les plus avantagés ont malheureusement tendance, parfois à dessein, mais parfois aussi indirectement et sans s'en rendre compte, à tirer la couverture à eux. Autrement dit, la forme que prendra le monde de demain dépend des choix de chacun, pondérés par le pouvoir politique, économique et financier de chacun. Or, dans un logiciel libéral, ces choix et pouvoirs sont par définition peu contraints, ce qui signifie que les futurs possibles sont extrêmement nombreux et incertains. Nous ne pouvons pas prendre de décision collective sur ce à quoi l'avenir devrait ressembler sans limiter les possibles et donc contraindre nos libertés. Soit notre logiciel conserve en son cœur la maximisation des libertés, ce qui signifie que tous les scénarios sont possibles, le plus probable étant certainement le business as usual, soit nous faisons des choix collectifs sur la forme que notre monde futur devrait prendre et, dans ce cas, nous supprimons des réalités alternatives, nous supprimons des chemins possibles. Or, pour empêcher les acteurs de prendre ces chemins individuels alternatifs, qui ne correspondent pas aux objectifs communs fixés, il faut mettre en place des contraintes sur les grandes variables économiques que sont les prix, les quantités et les revenus. Et évidemment, le principal levier pour y arriver, partenaire inavouable d'un libéralisme que l'on souhaite diriger un minimum, c'est l'impôt. L'impôt permet de transformer les prix, de contraindre les quantités et de modifier les revenus. Si votre idéal de société est plus de liberté pour tous et pas plus de pouvoir d'achat pour les infirmières ou moins de gaz à effet de serre ou encore moins de plastique, alors la contrainte par l'impôt est votre ennemi. Si en revanche, l'idée que vous vous faites de l'avenir est porteuse d'un objectif plus ou moins précis et concret de ce que l'humanité doit accomplir, qu'il s'agisse de justice sociale, de lutte contre le réchauffement climatique ou de ce que vous voulez, alors il faut en passer par le fléchage d'un chemin et donc par la contrainte des acteurs. Au niveau économique, ces contraintes doivent agir sur les variables qui définissent toutes les autres, les prix, les quantités et les revenus. Si l'on peut imaginer de nombreuses manières de matérialiser ces contraintes, l'impôt, qu'il soit local ou national, payé par tous ou seulement par certains, est sûrement le levier, même s'il n'est pas le seul, la réglementation en est un autre, dont il faut redorer le blason si nous souhaitons réellement voir advenir les changements que nous appelons de nos vœux. Dans cette perspective, il nous faut apprendre à concevoir l'impôt de manière positive, tout un programme.